Bientôt midi et demi, vous écoutez Europe 1, l'heure du journal de la mi-journée. C'est avec vous Florence Cohen. Bonjour Florence.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Et les titres de ce journal, les Libanais attendent beaucoup de la conférence des donateurs internationaux cet après-midi. Première démission de ministre après l'explosion du port de Beyrouth. On cherche toujours des survivants dans un cratère de 43 mètres de profondeur.
On trouve des plaques de béton qui sont quasiment pulvérisées par le souffle de l'explosion. Il y a tellement de gravats partout, il y a tellement de fer à béton qu'on a du mal à progresser.
Le port du masque obligatoire sur les quais de Seine et dans une centaine de rues de Paris à partir de demain à 8h. Comment ça va se passer, Audrey Pulvar, adjointe à la mairie?
Comme vous avez des panneaux de cédés de passage pour les piétons, vous aurez aussi une indication rue avec port du masque obligatoire ou pas.
Mais pourquoi les Français n'acceptent pas toujours le port du masque? Nous en parlerons à 12h45 avec notre invitée, la psychosociologue Dominique Picard. Trop de maires se font agresser en France pour toutes sortes de raisons. Les élus s'alarment. Nous serons en ligne dans ce journal avec le sénateur Philippe Bas qui demande un plan d'action au Premier ministre. La France envoie de l'aide à l'île Maurice contre la marée noire. Pas une mince affaire, décrit ce capitaine de vaisseau.
Les opérations de pompage, ça peut durer plusieurs jours malheureusement, parce que les Mauriciens n'ont pas une idée claire encore du volume d'hydrocarbures qui est parti de la coque. Hein. C'est plusieurs centaines de tonnes probablement.
Il fait toujours trop chaud, 40 degrés cet après-midi et toujours une vigilance rouge sur le nord de la France. Météo dans un quart d'heure avec Valérie Darmon. Bienvenue dans votre journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
La communauté internationale se porte donc au chevet d'un Liban meurtri. Une visioconférence des donateurs débute dans une heure et demie pour organiser l'aide, 5 jours après l'explosion qui a fait au moins 158 morts, plus de 6000 blessés et des dizaines de disparus. La France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Égypte seront là, ils seront 36 au total. Alors Jeanne Bergaoui, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence ?
Eh bien, l'objectif, c'est de mobiliser au plus vite des fonds pour pourvoir aux premiers besoins d'urgence du Liban. Depuis l'explosion mardi, les Nations Unies sont sur le terrain pour tenter d'évaluer l'enveloppe globale nécessaire à cette aide immédiate. L'ONU estime par exemple que pour les seuls besoins de santé, il faut réussir à dégager au moins 85 millions de dollars. Mais ça n'est qu'un volet de ces besoins d'urgence. Il faut aussi financer l'aide alimentaire, la sécurisation des bâtiments, la restauration des hôpitaux ou des écoles. Tout cela va donc coûter très très cher. Alors tout à l'heure, les principaux partenaires du Liban vont tenter de s'entendre sur la somme que chaque pays et chaque institution peut débloquer rapidement. Ils devront également définir des mécanismes de financement pour assurer une traçabilité, une transparence dans l'utilisation de ces fonds. La condition, c'est bien que l'aide soit acheminée directement aux populations et aux ONG.
Les Libanais, bien sûr, vont suivre de près cette conférence. Aujourd'hui, comme hier, ils doivent crier leur colère à Beyrouth, colère contre l'irresponsabilité et la corruption du régime. Et aujourd'hui, une première démission de ministre après cette explosion. La ministre libanaise de l'Information quitte ses fonctions. Elle s'excuse auprès du peuple de ne pas avoir pu répondre à ses attentes. Nicolas Feldman, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Beyrouth. Qu'est-ce que les Libanais, eux, attendent de cette conférence? De quoi ont-ils besoin?
Eh bien, j'ai envie de dire, Florence, un peu de tout, hein, comme sur cette place de la capitale où je me trouve. Je suis à moins de 3 km du port de Beyrouth et l'aide s'organise ici. J'ai pu parler avec le docteur Jean. Il est dans une grande tente bleue, les bras chargés de cartons. Et lui, il attend un geste fort de la communauté internationale. Pour lui, il faut sauver le Liban. Devant moi, j'ai aussi une petite fourgonnette qui est installée, coffre ouvert. Et là, on a des dizaines de personnes qui essaient de se frayer un chemin pour accéder aux infirmières, aux médicaments. Mais pour un autre responsable de l'ONG Caritas que j'ai pu croiser, ce qu'il faut surveiller aujourd'hui, c'est que chaque centime promis au Liban soit tracé très précisément. Et aussi l'urgence, c'est bien sûr de reconstruire, de réparer ces bâtiments comme pour ces ouvriers à l'œuvre que j'ai pu croiser dans une école non loin d'ici. Pas le temps d'attendre cet argent. Ils sont déjà au travail pour réparer avec les moyens du bord le mur de l'enceinte soufflé par l'explosion.
Merci beaucoup Nicolas Feldman en direct de Beyrouth pour Europe 1. Alors il y a des dizaines de disparus après cette explosion, hein, on l'a dit. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants, mais elles sont compliquées par l'état de la zone sinistrée. La déflagration a creusé un cratère énorme de 43 mètres de profondeur. C'est impressionnant. Reportage à Beyrouth avec les sauveteurs de Johanna Chabas.
À la place du port, une plage, un trou béant rempli par la mer turquoise. Et autour, tout est tas de ferraille. Les bateaux sont renversés, les silos éventrés. Beaucoup de poussière dans l'air alors que les pelleteuses déblaient le terrain. Une centaine de secouristes sont toujours à la recherche de survivants, à l'aide de chiens renifleurs et de caméras. Colonel Tissier est en charge des 55 Français dépêchés ici. Pour l'instant, ils n'ont trouvé aucune victime vivante, car le terrain est particulièrement difficile.
Comme il y a eu une explosion, il y a eu un effet de blast et de projection de nombreux matériaux. En fait, on trouve des plaques de béton qui sont quasiment pulvérisées par le souffle de l'explosion. Et l'environnement est particulièrement déstructuré. Il y a tellement de gravats partout, il y a tellement de fer à béton qu'on a du mal à progresser. Cela s'ajoute évidemment les conditions au niveau température, aujourd'hui du vent, de la poussière, qui compliquent le travail des équipes.
Autre difficulté, les secouristes n'ont aucune donnée sur le nombre de personnes manquantes qui sont encore à chercher. Et la possibilité de trouver des survivants relève aujourd'hui du miracle, selon le colonel. Son équipe a déjà commencé une deuxième étape de sa mission, s'assurer de la stabilité des bâtiments du centre-ville pour éviter tout nouvel éboulement. Beyrouth, Johanna Chabas, Europe 1.
Et la France met en place un pont aérien et maritime vers le Liban à partir d'aujourd'hui. 18 tonnes d'aide médicale et 700 tonnes d'aide alimentaire vont être acheminées.
Europe 1 midi 35, la suite du journal, Florence Cohen.
Contre le coronavirus, le masque obligatoire dans les rues gagne du terrain. Il s'impose désormais dans les grandes villes et les stations balnéaires. Et dernière décision en date, masque imposé en extérieur à partir de demain dans les zones très fréquentées d'Île-de-France. Ce sera le cas notamment à Paris, sur les quais de Seine et dans une centaine de rues. Audrey Pulvar est adjointe au maire de Paris.
Il y aura un affichage très clair dans les rues, à l'entrée, à la sortie des zones concernées. Mais comme vous avez des panneaux de circulation, vous aurez aussi une indication rue avec port du masque obligatoire ou pas. Cette carte donc, qui est évolutive, elle est aussi en fonction de critères précis sur l'espace au sol, la capacité de la population à observer ce fameux mètre de distance de sécurité. Sur les Champs-Élysées, vu la largeur des trottoirs et le fait aussi que cette année, malheureusement, la fréquentation touristique est moindre, donc il y a moins de monde sur les grandes artères, permet pour le moment, de ne pas rendre obligatoire le port du masque sur une artère comme les Champs-Élysées. C'est pas dès demain, 8h, que les carnets de contravention vont sortir. Il va y avoir toute une phase de pédagogie à l'égard de la population. Et puis ensuite, éventuellement, les contrevenants seront sanctionnés.
Pédagogie jusqu'au 24 août. Mais ce port du masque aussi suscite quelques défiances, hein, avec des incivilités, des agressions. On l'a vu à quelques reprises, on en parlera à 12h45 avec notre invitée, la psychosociologue Dominique Picard. 233 maires agressés. Là aussi, on parle d'agression depuis le début de l'année en France. C'est plus que l'année dernière à la même époque et certains élus commencent à s'alarmer. Bonjour à vous, Philippe Bas.
Bonjour.
Vous êtes sénateur de la Manche. Vous venez d'écrire au Premier ministre Jean Castex pour lui demander un plan de sécurité des élus. Qu'est-ce que ça veut dire, un plan de sécurité ?
Vous savez, l'année dernière, nous avons fait, à la suite de la mort du maire de Signes dans l'exercice de sa fonction, une grande enquête, grandeur nature, auprès de tous les maires de France. Et on a pu percevoir qu'effectivement, le phénomène de l'insécurité des maires, les agressions, les menaces, les insultes, ne cessait de s'aggraver. Et pour nous, pour la République, comme les maires incarnent l'autorité publique dans son expression la plus proche de nos concitoyens, c'est quelque chose qui est très grave.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
C'est un phénomène qu'on ne peut pas laisser faire. Nous avons fait 12 recommandations. Le gouvernement en a pris en compte certaines. Il y a deux choses à faire. Mieux protéger les maires, et ça veut dire que des instructions dont on vérifiera l'application puis soient prises. Il y a eu ces dernières semaines 3 agressions très violentes. La dernière dans la Manche, et le maire qui a porté plainte, classement sans suite. Et ça n'est pas conforme aux instructions qui sont données par la chancellerie. Ça m'inquiète beaucoup. Donc il faut que des instructions très ferme soit donnée aux préfets et aux procureurs. Et il faut que les préfets mettent en œuvre un système de soutien permanent aux maires, une plateforme pour que dès qu'il y a une agression, le préfet puisse se mettre à la disposition du maire pour le soutenir. Et puis, il y a un autre point qui est très important. Vous savez, le maire, il agit dans l'intérêt de tous. S'il ne fait pas respecter les arrêtés municipaux et la loi, chacun fait ce qui lui plaît au détriment des autres. Et donc, c'est la loi de la jungle. Et par conséquent, il faut absolument qu'on conforte les moyens d'action des maires. Et par exemple, au lieu que ce soit un parcours du combattant pour faire sanctionner une infraction, il faut qu'il y ait des timbres-amendes, des amendes forfaitaires, automatiques, qui soient à la disposition des maires pour sanctionner les faits.
Vous avez eu une réponse positive de principe du gouvernement ?
Alors nous avons eu, parce que cette affaire pour nous n'est pas récente, hein, même si on voit ces phénomènes s'aggraver, l'année dernière, quelques dispositions législatives, des instructions qui ont été données au préfet et au parquet, et je dois dire que je doute fortement que ces instructions soient suffisamment respectées, qu'il faut aujourd'hui que nos recommandations qui n'ont pas été mises en œuvre, celles que je viens de rappeler, soient rapidement mises en œuvre. C'est pour ça que nous demandons d'urgence ce plan gouvernemental. Oui. C'est la sécurité des maires, mais derrière la sécurité des maires, il y a le respect de la loi pour tous les Français.
Et d'un mot, quelle cause vous voyez à ces agressions-là? Elles sont diverses, multiples et variées, mais si vous aviez une cause générale à donner?
Je crois qu'il y a un climat de contestation de l'autorité qui ne fait que s'aggraver et qui s'alimente de concession en concession par un laxisme qui me paraît excessif. Au fond, il faut que les sanctions soient proportionnées, il ne faut pas qu'elles soient excessives, il faut qu'elles soient justes, mais il faut qu'elles soient certaines. Et aujourd'hui, la sanction n'est pas certaine.
Merci beaucoup Philippe Bas, sénateur de la Manche, d'avoir répondu à nos questions ce midi sur Europe 1. On est à peu près au milieu de la vague de canicule prévue pour 6 jours par Météo France. 15 départements sont en vigilance rouge, ceux d'Île-de-France, des Hauts-de-France, plus l'Eure et la Seine-Maritime. La grosse chaleur, c'est pénible pour tout le monde, bien sûr, mais particulièrement pour ceux qui restent dans les grandes villes et qui ne partent pas en vacances. C'est le cas des citadins qui n'ont pas pu travailler pendant le confinement et qui maintenant tentent de rattraper le chiffre d'affaires perdu. Exemple à Lille, où on tente de se rafraîchir comme on peut, Maximilien Carlier.
Julie et ses enfants, les pieds dans l'eau, en maillot de bain, ils ont choisi des jeux aquatiques dans la métropole illoise pour s'occuper.
On essaie de les sortir à proximité de la maison pour qu'ils puissent profiter quand même. C'est important pour eux et pour nous aussi.
Car ils auraient dû partir au lac d'Annecy, mais à cause de leur travail dans l'événementiel, impossible.
Avec les reports de mariage qu'on a dû faire, on a annulé nos vacances pour pouvoir placer des dates dès que c'était possible. On a été fermés 3 mois, donc c'était pas raisonnable de partir en congé cet été financièrement. Voilà, secteur un petit peu compliqué, on va dire, en ce moment.
Pas de voyage non plus pour Nathalie, qui habite en appartement avec sa fille en plein centre-ville de Lille. Elle cherche à se rafraîchir, mais pas évident.
J'aimerais vraiment qu'il y ait un peu plus de points d'eau. Je sais pas si on peut mettre ça en place. C'est difficile pour ceux qui ne partent pas en vacances. On aimerait bien pouvoir plonger, on aimerait bien être au bord de mer en train de brasser et de me faire plaisir les doigts de pied en éventail.
Et plusieurs familles avaient l'habitude de passer des vacances à Lille-Plage, plage aménagée avec piscine, transat et sable. Mais rien cette année, annulé à cause du Covid. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Un couple de sexagénaires a été tué dans l'incendie de sa maison à Ghana, dans l'Allier, la nuit dernière. On ne connaît pas l'origine du drame. La France envoie de l'aide à l'île Maurice pour endiguer une marée noire. Il y a des hydrocarbures dans la mer après qu'un vraquier s'est échoué il y a 2 semaines. L'aide part de la Réunion. Écoutez Bruno Siacia, il est capitaine de vaisseau, correspondant de la zone maritime sud de l'océan Indien.
La France, elle a acheminé 1300 mètres de barrage flottant. Il y a eu 4 épurateurs, c'est-à-dire qui permettent de pomper l'eau qui est souillée, et 2 pompes qui permettent donc de participer à l'évacuation du carburant qui est encore dans le bateau. Alors, les opérations de pompage, c'est l'opération la plus délicate, hein, parce que globalement, ça dépend beaucoup des conditions météo. Vous l'imaginez bien, le bateau aujourd'hui, il est plus très stable. C'est difficile pour les citernes de venir s'accoster au bateau, hein, mais les opérations de pompage, ça peut durer plusieurs jours malheureusement, parce que les Mauriciens n'ont pas une idée claire encore du volume d'hydrocarbures qui est parti de la coque, hein, c'est plusieurs centaines de tonnes probablement, mais donc du coup il en reste encore beaucoup à bord, et donc mettre une pompe et puis vider un bateau, ça peut prendre plusieurs jours, c'est sûr.
À l'étranger, une élection présidentielle aujourd'hui en Biélorussie. L'autoritaire Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans, a toutes les chances de poursuivre son règne. Mais il affronte une jeune opposante de 37 ans qui a mobilisé les foules malgré la répression du régime. Allez, le sport est J-3 avant le quart de finale du PSG contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions de football. Des Parisiens un peu poissards hein, en ce moment, il faut bien le dire, puisqu'ils ont pas mal de monde à l'infirmerie. Bonjour Julien Froment.
Bonjour.
On va faire un petit point des forces en présence. Alors déjà, comment va Kylian Mbappé? Il avait été blessé lors de la finale de la Coupe de France.
Eh bien écoutez, il va plutôt bien. L'attaquant français était sur le terrain d'entraînement à Faro, dans le sud du Portugal. Le PSG, il fait un stage de quelques jours. Alors, pas aux côtés de ses partenaires, mais tout seul avec un membre du staff au programme, quelques accélérations, des frappes pour tester l'élasticité de sa cheville. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de bien tenir, mais il y a un mais, Kylian Mbappé ne devrait pas être titulaire contre Bergame, aucun risque ne sera pris. Le champion du monde devrait débuter sur le banc, ce qui est déjà une petite victoire pour le Paris Saint-Germain.
Bon, quant à Marco Verratti, on va dire qu'on compte pas sur lui. Hein.
Oui, il a pas fait le déplacement en Algarve, Marco Verratti est touché au mollet et forfait pour le quart de finale, il pourrait même manquer le reste de la compétition si d'aventure Paris venait à se qualifier. Enfin, les deux autres joueurs hein, qui avaient des petits bobos, à savoir le défenseur allemand Thilo Kehrer et l'attaquant argentin Mauro Icardi, eh bien, les deux ont pu prendre part à l'entraînement collectif sans aucun problème.
Merci beaucoup Julien Froment. Et deux mots de sport mécanique. Grand Prix moto de République tchèque cet après-midi. Le Français Johan Zarco part en pole position. Et Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1 à Silverstone en Grande-Bretagne. Le Finlandais Valtteri Bottas part, lui, en pole position de ce côté-là. On passe à la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Alors Valérie Darmon, on l'a dit tout à l'heure, hein, une quinzaine de départements toujours en vigilance rouge à la canicule. L'Île-de-France, les Hauts-de-France, l'Eure, la Seine-Maritime. On va se résumer, il fait chaud.
Eh oui, il fait chaud parce que la France reste sous l'influence d'une masse d'air torride remontant d'Afrique du Nord, d'où ces départements qui restent en rouge et tous ceux qui restent en orange. Et aussi pour le ciel, ces orages isolés mais ponctuellement forts des Pyrénées aux Hauts-de-France cet après-midi. De Hauts-de-France à la Normandie jusqu'au bassin parisien en rouge, jusqu'au Grand Est en orange, où il va faire jusqu'à 40 dans quelques heures, 28 en bord de Manche, de quoi battre de nouveaux records de chaleur déjà battus hier à Lille, vous le savez. Sur le centre, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Pyrénées, Occitanie, Auvergne, nouvelle journée caniculaire avec des valeurs entre 35 et 40. Des Pays de la Loire à la Bretagne, on respire un petit peu mieux sous un ciel voilé, 25 sur les côtes nord de la Bretagne, 34 dans les terres, et puis de la Provence Côte d'Azur à la Corse. Si la chaleur est tempérée en bord de mer, on va y venir dans quelques instants, Météo France prévoit 33 à 40 ailleurs.
Merci Valérie Darmon, et effectivement on vous retrouve tout à l'heure pour la météo des plages. Nous, on va se retrouver juste après cette pause avec notre invitée, la psychosociologue Dominique Picard, pour s'interroger sur ce port du masque en extérieur parfois contesté en France. A tout de suite.
Midi 47, votre journal de la mi-journée se poursuit sur Europe 1 avec vous, Florence Cohen, et votre invité.
Et oui, on va parler du port du masque qui devient de plus en plus obligatoire en extérieur, essentiellement dans les grandes villes, dans les stations balnéaires, Paris, on l'a vu, c'est à partir de demain. Mais ce port du masque qui donne lieu à quelques contestations, on a vu l'agression d'un client dans une laverie du Val d'Oise parce qu'il avait demandé à un autre client de porter son masque. On a vu ce chauffeur de bus de Bayonne tué parce qu'il a demandé à un client de porter un masque et d'amener un ticket. Il y a toutes ces formes d'agression pour les plus extrêmes et aussi de petites méchancetés concernant le port du masque. Bonjour Dominique Picard.
Bonjour.
Vous êtes psychosociologue, spécialiste des relations sociales. Alors, première question, pourquoi finalement ce port du masque suscite toujours des réactions, qu'elles soient extrêmes ou pas? On ne va pas tout de suite aller aux extrêmes. Mais qu'est-ce qu'il revêt pour nous, ce masque qui nous cache la moitié du visage?
Ben, plein de choses. Alors, s'il déclenche de la violence n'est pas née avec le port du masque. Hein. La violence monte hein, et devient une réponse, disons, plus fréquente à quelques situations gênantes. Alors, en quoi il est gênant, ce port du masque? Ben, il est gênant à plein de niveaux. D'abord, il est gênant tout simplement dans la communication parce que quand on communique avec les gens, on envoie plein de petits signaux non-verbaux, hein, c'est-à-dire des sourires, des petits gestes, etc. Or, là, quand même, tout le bas du visage est bloqué.
Est occulté.
Donc, ben, va être occulté, oui, merci. Donc, il y a tous ces signaux-là qui sont empêchés. On est obligé de pallier cela en augmentant les autres signaux. Alors, il faut penser à faire des gestes, à cligner des yeux. Ça complique la communication. Un autre niveau aussi, le masque. Il faut voir toute la symbolique du masque qui existe dans notre culture. Quelqu'un qui avance masqué, c'est quelqu'un qui n'est pas franc, donc il faut se méfier. On disait il n'y a pas si longtemps, il y a quelques dizaines d'années, encore au début du XXe siècle, de quelqu'un qui était un peu fourbe, un peu dissimulé, c'est un petit masque. Mmh. C'est une petite masque. Donc vous voyez, le masque a une connotation quand même, à part la connotation festive des carnavals, il a quand même une connotation inquiétante.
Et alors
négative, oui.
Ouais. Et alors, si je comprends bien néanmoins le début de votre réponse tout à l'heure, ces incivilités, ces agressions que l'on voit poindre aujourd'hui en France à plus ou moins grande échelle, finalement, ça n'en est pas le masque, le catalyseur. C'est une société qui devient de plus en plus abrupte, de plus en plus drue et qui ne supporte plus la moindre remarque sur rien.
On pourrait le dire un petit peu à ce niveau-là. Je ne suis pas une spécialiste de la montée de la violence dans notre société, mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même une montée des réponses violentes à des situations qui, il y a encore quelques dizaines d'années, auraient au pire suscité une injure. Mmh. Ça ne serait pas aller plus loin. Or, il y a une montée de violence. Alors, on peut se demander en quoi le masque peut justement susciter de la violence. Ben, le masque, c'est une entrave, et le masque rappelle la frustration et le stress dans lequel on vit actuellement, et qu'il ne faut pas négliger. Alors, la frustration parce que ce virus nous empêche de vivre à notre guise, à notre rythme, on a des tas de contraintes.
Et ça, c'est particulièrement vrai chez les jeunes, cette coercition qui ne convient pas.
Alors ça, je ne sais pas. Mmh. Disons que les jeunes ont du mal à supporter cette frustration, et d'autant plus de mal qu'ils sont en principe les moins atteints par le virus. On peut penser que des gens plus âgés supportent les contraintes parce que c'est un moyen de sauver leur peau, si vous voulez, parce que le virus est très dangereux pour eux. Pour des gens plus jeunes, c'est moins vrai. On peut dire aussi que d'une façon générale, les gens très jeunes supportent mal la frustration. Il y a une sorte de désir d'immédiateté.
Et d'ailleurs, je vous interromps. D'ailleurs, finalement, Dominique Picard, est-ce que la coercition est une bonne idée? Est-ce que l'obligation pure et simple de porter un masque est une bonne idée? Ou est-ce qu'on aurait intérêt, finalement, à faire appel au bon sens citoyen? En termes de psychosociologie, qui est votre domaine?
On a toujours intérêt à ne pas jouer que sur la coercition, qui entraîne la révolte. D'un autre côté, la bonne volonté, ça ne marche pas toujours. Je crois qu'on l'a vu. C'est-à-dire que au moment du déconfinement et avec l'arrivée des vacances, on a un petit peu compté sur la bonne volonté. La bonne volonté et le sentiment de responsabilité et le sentiment de solidarité. Alors, je ne sais pas, il faudrait faire une étude approfondie. Ce que mes observations m'amènent à penser, c'est que beaucoup de gens y pensent à ces gestes barrières, font un peu attention quand même, mais peut-être pas suffisamment, puisqu'on s'aperçoit que le virus remonte. À ce moment-là, il faut bien, excusez-moi, intervenir d'une façon un peu plus sévère. Mmh.
Qu'est-ce qu'il faut penser de ces mouvements anti-masques qu'on voit fleurir un peu en France, beaucoup aux États-Unis? Des gens qui arborent fièrement le masque au fond de leur sac et qui disent « je ne le sortirai pas, quoi qu'il m'en coûte, et quel que soit le type d'amende ». Ça veut dire quoi, ça?
Ben là, ça veut dire une espèce de révolte basique qu'on voit dans plusieurs domaines. Là aussi, regardez...
C'est assimilable au vaccin? Aux anti-vaccins?
Ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire des gens qui ont décidé de ne pas croire ce qui passe par un canal officiel. Alors pourquoi? Ben peut-être par une méfiance profonde vis-à-vis de tout ce qui représente une autorité, le pouvoir, la science, etc. Par une espèce de sentiment revanchard, moi je suis au-dessus de ça et je sais mieux, Alors là aussi, on pourrait essayer de le comprendre et de l'expliquer, mais on n'a peut-être pas tout à fait le temps.
Mais en tout cas,
temps.
Oui. Non, mais c'est surtout que ça ne simplifie pas la tâche, en tout cas des autorités. Merci beaucoup, Dominique Picard, psychosociologue, d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, « Politesse, savoir-vivre et relations sociales ». C'est aux éditions Que sais-je. Merci beaucoup.
Midi 55 sur Europe 1 et comme tous les week-ends, nous retrouvons Roland Pérez avec vous, Florence Cohen, pour sa chronique « Ai-je le droit ?».
Et bonjour à vous, Roland.
Bonjour Florence, bonjour à tous.
Alors, on va parler aujourd'hui de la réglementation et des recours en cas de litige avec une location de maison pour les vacances.
Et oui Florence, qui n'a pas été déçu, voire trompé par une location saisonnière et quelque peu démuni et tiraillé entre ne pas séjourner dans la maison ou y rester avec tous les défauts constatés et de peur évidemment de ne pas se retrouver, de ne pas retrouver en urgence un relogement ou tout simplement de ne pas avoir les moyens de repayer une nouvelle location ou même un hôtel. On ne fait pas toujours ce que l'on veut quand on se retrouve avec enfants, poussettes, valises et parfois même les grands-parents qu'on a invités dans la maison qu'on croyait idylliques. Et pour éviter de se retrouver dans cette situation, il vaut mieux connaître les précautions à prendre avant et surtout quoi faire en cas de litige.
Alors justement, quelles sont les précautions à prendre avant de louer, avant de payer ?
Quel que soit l'intermédiaire par lequel on passe, agence, plateforme de location entre particuliers ou même si on traite directement avec le propriétaire, il faut se prémunir de preuves en cas de litige. Tout d'abord, il faut impérativement un contrat ou au moins un échange de lettres entre, ou de courriel avec la description de la maison et une foule de détails importants tels que le nombre de pièces, de couchage, l'équipement de la maison, la distance qui la sépare du village, des commerces, de la mer et de la gare. Si on peut avoir la taille du jardin et de la piscine, c'est plutôt mieux. Mmh. Et bien sûr, il faut que les conditions financières soient précisées avec le dépôt de garantie et les arts souhaités. Et surtout, à l'arrivée de la maison, mon dernier conseil, c'est d'exiger un état des lieux qui permettra plus aisément de comparer le descriptif annoncé et la réalité sur place, de visu, j'ai envie de dire.
Oui, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Bon, et si malgré toutes ces précautions suivies à la lettre, la maison s'avère complètement différente du descriptif, voire totalement non conforme, voire totalement mensongère, quels sont les recours ?
Alors, le litige le plus fréquent, c'est bien sûr celui de la non-conformité du logement aux photos et descriptifs, ou parfois c'est juste un problème de propreté ou de dysfonctionnement des équipements. Dans ce dernier cas, il faut trouver un arrangement sur place avec le propriétaire ou l'intermédiaire et négocier que quelqu'un vienne réparer ce qui ne marche pas ou nettoyer la maison trouvée visiblement sale. Et dans la situation où la description de la maison s'est avérée manifestement mensongère, là aussi, il faut privilégier le dialogue pour obtenir une ristourne proportionnée aux nuisances cachées et les très mauvaises surprises découvertes sur place, telles, alors je donne quelques exemples, une autoroute à proximité, un rince-doigt en guise de piscine,
sympa,
des pièces minuscules, un terrain de boue au lieu et place du jardin annoncé, des travaux de construction et travaux à proximité, et j'en passe. Mmh. Et si aucune solution de repli ou indemnisation avec remboursement de tout ou partie du prix de la maison n'est trouvée, et si l'office du tourisme ou l'agent immobilier ou encore la plateforme de location n'a pu jouer son rôle de médiateur, la justice, dans ce cas-là, Florence, devra être saisie, laquelle se penchera sur le contrat, l'état des lieux, les photos et les témoignages justifiant la non-conformité pour condamner éventuellement le propriétaire au remboursement de la location et à des dommages-intérêts. Il faut savoir que la justice ne badine pas avec la mauvaise foi.
Voilà, donc on a quand même des recours et des solutions, mais c'est vrai qu'entre-temps, les vacances sont gâchées. Merci beaucoup, Roland Pérez, et à la semaine prochaine. Allez, on va passer à la météo des plages. Valérie Darmon, quel temps fait-il à la mer ?
Eh bien, super belle journée, bien évidemment, sans surprise sur l'ensemble de nos littoraux. Soleil généreux de Menton à Sanary-sur-Mer, avec des valeurs à 30 degrés sur vos plages, un petit peu moins depuis Marseille jusqu'à 7, aux alentours de 26, une Méditerranée qui se réchauffe entre 21 dans l'Hérault et 26 de nouveau dans les Alpes-Maritimes. Extrêmement calme, cette eau magnifique. Sur la Manche, température similaire à Saint-Malo, avec 30 degrés sous vos parasols, 28 à Dunkerque, pour une eau entre 19 dans le Pas-de-Calais et 21 dans le Calvados, toujours aussi calme que la Méditerranée. Sur l'Atlantique, c'est un petit peu plus nuageux, du Finistère sud jusqu'à la côte basque, avec des températures en baisse comme prévu. Fort agréable pour un plouf, entre 28 à l'île de Ré et 29 à Biscarros. Océan calme aussi, entre 19 et 23 degrés dans les Landes pour la baignade.
Merci Valérie Darmon et très bonnes vacances à ceux qui ont la chance de faire plouf justement.
Restez bien avec nous à suivre le rappel des titres et on voyage dans les carnets d'été de Sophie Larmoyer sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1.